Oui, ben bonsoir à toutes et tous. On m'a demandé d'aborder la question de l'autonomie et le travail et j'ai souhaité l'aborder dans le cadre des reprises actuelles, du mouvement actuel de reprise d'entreprise par les salariés face à la crise, qui est à mon avis une illustration possible de ce thème, puisque tu demandais de me présenter pourquoi. Bah parce que je travaille pour le magazine Regard et que j'ai couvert pas mal de ces affaires récentes. C'est vrai, je ne sais pas si vous l'avez, vous l'avez probablement ressenti en écoutant les informations, ce thème de la SCOP, de la coopérative ouvrière de production, qui maintenant s'appelle Société coopérative et participative, est quelque chose qui revient sur le devant de la scène assez souvent. On l'a vu avec l'exemple de Cifrance, on le voit peut-être avec Fralib, si vous en avez entendu parler. Or, il me semble, et c'est ce qu'on a constaté nous, c'est que par rapport à 2009, où il y avait véritablement beaucoup de licenciements, ces combats syndicaux se menaient un petit peu le dos au mur sur le terrain d'obtenir les indemnités de licenciement les plus grandes possibles. Et puis très rapidement, on s'aperçoit que ça n'est qu'un pis-aller, puisque une fois que les indemnités sont épuisées, si on n'a pas retrouvé de travail, on est vraiment coincé. Et on a senti dans le mouvement social un tournant aux alentours de 2010-2011 où beaucoup d'entreprises ont souhaité être prises par leurs salariés, alors que ce soit dans le cadre d'un conflit plus ou moins violent ou de façon beaucoup plus, à la barre, comme on dit, à l'intérieur, au tribunal, si je puis dire. Donc voilà. Alors, quelques exemples. Il y a Elio Corbeil, pas loin de chez nous, qui est une imprimerie qui travaillait essentiellement pour de grands magazines, photos et autres, dont les effectifs ont décliné au point que cette société devait être liquidée et qui a été reprise en SCOP par ses salariés au printemps dernier. Vous avez un autre exemple qui est significatif, c'est une unité dans le Nord de la Comareg. La Comareg, c'est une filiale du groupe Hersant, vous savez, celle qui publiait le journal paru vendu de petites annonces, qui a disparu de nos boîtes aux lettres. La société Comareg a été liquidée et des salariés d'une entreprise du Nord ont souhaité reprendre ceci. Alors, chose amusante, ils l'ont reprise avec l'ancien fondateur de l'entreprise Inter 59 qui avait revendu à Hersant et qui a vu comment Hersant avait fait évoluer le journal, et qui avait dit, mais attendez, ça, on va au casse-pipe, tout simplement. Et sa stratégie, c'était de développer une complémentarité avec l'Internet, et un jour, il se retrouve dans la manifestation avec ses anciens salariés, qui lui disent, ah, patron, vous êtes là, et tout, et il se trouve qu'il y a un parfait accord avec le délégué syndical sur la stratégie à suivre, et donc, ils reprennent la boîte en SCOP. Enfin, lui a pas loin de 75-80 ans, donc il le fait de façon bénévole, bien entendu, mais ce sont surtout ses anciens salariés qui reprennent et ont relancé, encore une fois, au printemps, l'entreprise en SCOP. Vous avez le cas de Cifrance. Alors, on en a entendu parler aux informations cet hiver, notamment à partir du moment où Sarkozy était arrivé en parlant d'indemnité supralégale. Ce qui était très intéressant dans le projet de Cifrance, c'est que la société n'était pas encore en liquidation. Elle était en redressement judiciaire et les salariés ont créé d'office une SCOP dans laquelle ils proposaient de reprendre les navires pour un euro symbolique tout en garantissant la totalité de l'emploi. Et bien entendu, ils comptaient se refinancer en revendant les navires à une société d'économie mixte publique de façon à conserver un côté public à cette activité. Tout en obtenant, je dirais, le cash flow qui leur permettait de reprendre. Or, ça, c'est une solution qui n'a pas été retenue. Je dirais qu'on a vraiment tout fait pour casser Cifrance. Personnellement, c'est comme ça que je le ressens, la direction Cifrance qui a laissé les navires à quai à partir du 15 novembre. Sarkozy, qui est arrivé, comme la mayonnaise commence à monter, en parlant d'indemnité supralégale. Alors, il faut comprendre, quand il parlait d'indemnité supralégale, ça signifie qu'on liquide l'entreprise, qu'on licencie les salariés. Donc, c'est justement ce qu'ils ne voulaient pas. Ils étaient 880. Ce qu'ils voulaient, c'était que la société sorte par le haut de la période d'observation et que les contrats de travail soient maintenus. Ça ne s'est pas fait. Bonne nouvelle quand même dans ceci, la société a été reprise cet été, au mois d'août. Je crois que c'est aux alentours du 21 ou 22 août que la première traversée d'un ferry, anciennement Seafrance, a repris sous le nom de myferrylink.com. Donc c'est une scope, ça redémarre, c'est une chose, c'est une bonne chose. Alors bien entendu, beaucoup plus petit format que ce qu'ils avaient anticipé, puisque ce qu'ils avaient anticipé, ce pourquoi ils se battaient, c'était la non-liquidation de la société. Liquidation qui, comme vous le savez, a été prononcée au mois de janvier, hélas, de cette année. Mais bon, petite lueur d'espoir là-dessus. Dernier conflit qui, en ce moment, défrait un petit peu la chronique dont on parle énormément, mais qui, à mon sens, est emblématique du point de vue de l'autonomie au travail et de l'articulation par rapport aux usagers et autres, puisqu'on parle aussi d'autonomie des usagers, on le voit avec la question des vélos, on va en parler tout à l'heure sur d'autres terrains. Le conflit Fralib. Alors Fralib, qu'est-ce que c'est? C'est une unité de production, de conditionnement de thé et d'infusion, qui est une filiale d'Unilever, qui se trouve à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône. Unilever souhaite fermer cette unité de production, a déjà produit deux plans sociaux qui ont été recalés au tribunal d'instance. Donc c'est un conflit qui dure depuis 2 ans. Et le point des salariés, c'est de dire, mais Unilever veut se débarrasser de nous, très bien, mais qu'au moins il nous laisse l'outil de production, qu'au moins il nous laisse continuer et qu'on garde. Alors ce qu'ils demandent, c'est maintenir les machines, un plan d'affaires, et puis surtout, de façon à ce qu'ils se retournent et qu'ils trouvent de nouveaux partenaires, hein, et puis surtout la cession de la marque L'Éléphant, qui est une vieille marque française, qui date du début du siècle, qui est une marque marseillaise, hein, que, en plus de ça, Unilever n'utilise absolument plus à l'étranger, il n'y a qu'en France qu'ils utilisent L'Éléphant pour leurs propres infusions. Donc ce qu'ils demandaient, voilà. Alors actuellement, c'est en négociation, on ne sait pas. Chose intéressante dans le cas de Fralib, c'est leur approche, qui est une approche qui n'est pas seulement on va se transformer en scope, c'est l'idée, on va se transformer dans une structure coopérative dans laquelle on va associer aussi bien nos fournisseurs en amont, et ils sont actuellement dans des démarches de commerce équitable avec le Vietnam pour le thé, avec la reconstruction de filières aromatiques en Provence, vous savez que c'est une région qui est largement propice à ce genre de choses, et en aval avec le futur client qui sont des réseaux de commerce de distribution en matière de commerce équitable et autres. Donc une démarche vraiment très intéressante en termes de dépassement du marché. Voilà. Alors, quelques mots maintenant, et c'est peut-être là-dessus, je ne sais pas, puisqu'on est censé avoir un débat et je ne voudrais pas être beaucoup plus long. Ce que font tous ces gens actuellement, c'est de choisir une forme d'entreprise très particulière, qui est la forme coopérative. Donc la forme coopérative, qu'est-ce que c'est? C'est une forme qu'on peut caractériser. Alors, vous avez 7 principes affichés à l'Alliance coopérative internationale, mais pour moi, il y a 2 points qui différencient une société coopérative d'une autre société. Le premier, c'est la question de la décision qui se fait sur la base d'une personne, une voix, et non pas sur la base des apports de chacun. Donc si je construis une entreprise aujourd'hui, si j'ai mis 20% des apports, j'aurai 20% des voix. Dans une coopérative, ça n'est pas le cas. C'est une personne, une voix. Et le deuxième chose, c'est le principe de la non-rémunération de la part sociale. C'est-à-dire que le capital est secondaire, on amène un capital, il est là pour répondre à un besoin. Donc notion effectivement là, d'autonomie, on le met ici, répondre à un besoin, mais il n'est pas là forcément pour être rémunéré, ce n'est pas le sujet, il est secondaire. Et donc le corollaire de cette approche, c'est l'idée de dire que lorsqu'on fait du résultat, on va en distribuer une partie, certes, mais une autre partie va être mise en réserve, des réserves qui sont impartageables, c'est-à-dire qu'elles seront toujours dans la coopérative et elles serviront à l'avenir de cette société dans le temps. Et aucun actionnaire sociétaire, on parle de sociétaire dans le monde de la coopération, ne peut s'approprier, bien entendu, ces réserves. Donc ce sont des caractéristiques. Alors à partir de ce moment-là, je dirais, en matière de coopérative, on a schématiquement 2 grandes familles de coopératives. Vous avez les plus connues, enfin historiquement, ce sont les coopératives d'usagers, ce sont des usagers qui se retrouvent ensemble pour répondre à un besoin et puis qui vont embaucher en fonction de ceci. Et là, on a essentiellement parlé de coopératives, je dirais, de producteurs. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce sont des gens qui se regroupent pour avoir un travail et puis vendre le produit de leurs services directement sur le marché. Le projet Fralib a une petite originalité, c'est que ce qu'ils veulent monter, c'est un projet de coopérative d'intérêt collectif, donc multi-collège associant les différentes parties prenantes de l'entreprise de façon à dépasser les relations marchandes, qui est peut-être une des clés de l'autonomie. Mais je vais m'arrêter là pour laisser place au débat.
Merci. qui a une question ?
Non, on n'est pas du tout autonome avec ces
médias. Non.
Non.
J'en ai deux, en fait. Apparemment, il y a beaucoup de coopératives en France. Est-ce que ça a vraiment changé le rapport de force pour les salariés, enfin en général, vu qu'il y a toujours des catastrophes au niveau de l'emploi? Et puis, deuxièmement, je voulais vous parler du produit. Parce qu'on peut reprendre, des tisanes, oui, d'accord, mais l'automobile, par exemple. PSA, qu'est-ce qu'on fait? Et dans les grosses entreprises, comment ça peut se passer? Est-ce qu'il y a des très grosses entreprises qui fonctionnent en coopérative? Et quel est le poids, justement, de la décisionnelle des salariés? Et quid du produit? Est-ce qu'on doit produire n'importe quoi?
Oui, alors ça, d'abord, je relativise ce qui a peut-être pu être compris. Ce qu'on sent, on sent un tournant en 2010-2012 où beaucoup de conflits, effectivement, commencent à se poser la question de la reprise en coopérative. Ça n'est pas le cas global. Et sinon, ça se saurait. Donc voilà, donc on en est quand même là-dessus. Ensuite, du point de vue de l'utilité sociale de la production, je crois qu'il y a des réponses à donner à deux niveaux. Et puis, enfin, en question de taille, d'abord, abordons la question de la taille. Bon, aujourd'hui, par exemple, le plus gros, alors on parle de Peugeot actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas de projet de reprise en coopérative de Peugeot, ce qui est dommage d'ailleurs, je le pense. Ce n'est pas forcément en scope d'ailleurs que ça devrait se poser, je pense, mais on va y revenir. Mais le plus gros projet qui a été, c'était le projet de Cifrance avec 880 salariés. Le projet de Gémenos, là, de Fralib, c'est une centaine de salariés. Et ensuite, on est en dizaines de salariés. Donc voilà, pour donner un ordre d'échelle par rapport à ce qui se passe actuellement. Ensuite, du point de vue du sens de la production. Alors, très difficile à interroger. Il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai vu et lu pas mal d'enquêtes auprès d'entreprises récupérées argentines. Vous avez sans doute dû entendre parler de ce phénomène d'entreprises qui ont été reprises. Alors là, je dirais qu'en Argentine, il faut relativiser. Vous avez le poids des coopératives de salariés, de producteurs en Argentine par rapport à l'économie argentine est le même que le poids de nos scopes. Donc très marginal. Hein, le poids des les scopes en France, c'est à peu près 42 000 salariés qui travaillent aujourd'hui en scope. Donc c'est très, très, très marginal. En Argentine, on est dans le même. Mais la différence, c'est que ça n'existait pas et que c'est apparu en quelques années, alors que le mouvement des scopes, lui, est un mouvement qui est très ancien, qui remonte au 19e siècle avec les associations ouvrières de production. Donc voilà. Maintenant, du point de vue du sens, quand on interroge les gens qui reprennent l'entreprise, c'est vrai qu'une des premières questions qui se posent, c'est quel est le sens de notre travail ? Parce qu'effectivement, ils n'ont plus du tout le même rapport au travail. On a un rapport de suggestion au départ, on écoute le patron, on écoute le marché, puis là, ben, on est quand même au poste de commande, donc on se pose cette question. Et c'est une chose qu'on a remarqué en Argentine. Dans les scopes, ça se pose de temps en temps, etc. Et c'est une très vieille question. C'est une très vieille question qui avait été abordée aussi bien par le mouvement coopératif que par des courants politiques de type libertaire ou marxiste sur le sens de ces sociétés coopératives de production, des alliances ouvrières de production. C'est-à-dire que, je remonte dans le temps, assez curieusement, l'alliance, il y a aujourd'hui un regain des scopes vis-à-vis du monde du travail. Autrefois, c'était relativement marginal, l'association ouvrière de production. Et tous ces courants politiques, et même le mouvement coopératif d'une façon générale, privilégiaient la coopérative d'usagers. Parce qu'effectivement, on disait, dans ce cas-là, ce sont les usagers qui orientent la production et pilotent la production. Et on retrouve ce courant d'une façon générale. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si on voit qu'il y a beaucoup aujourd'hui de magasins éthiques, bio, etc., qui se montrent sous forme coopérative de consommation. Effectivement. Ce besoin d'associer effectivement les uns aux autres pour dépasser les relations marchandes. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ?
Oui, peut-être.
En France, on a une mentalité très pyramidale, très hiérarchique. Est-ce que dans d'autres pays, ce type d'organisation est plus fort ?
Alors, oui, effectivement, quand on parle de d'organisation pyramidale, oui, bon, c'est général dans tous les pays, hein, faut pas se tromper, je veux dire, il y a relativement peu de coopératives de salariés, de travailleurs, de production qui existent. D'une façon générale, c'est marginal. Il y a un exemple qui est très différent, c'est celui du complexe coopératif Mondragon au Pays Basque. Donc de l'autre côté des Pyrénées. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est lancé dans les années 50. Très vite, se sont créées différentes coopératives. Et alors, vous parliez d'organisation hiérarchique. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de ce groupe, c'est qu'en fait, ils ont créé des coopératives et ils se sont coordonnés entre elles. Aujourd'hui, c'est 125 coopératives qui représentent... alors, 85 000 travailleurs. C'est le premier groupe industriel du Pays Basque. C'est le cinquième d'Espagne. Et l'originalité, je trouve, de ce groupe, c'est qu'ils ont réussi à se coordonner pour constituer un groupe, mais du bas vers le haut, à l'inverse d'un groupe coté en bourse, du CAC 40, où généralement c'est la holding qui est cotée, et puis on a des filiales qui obéissent aux ordres. Là, on a exactement l'inverse. Alors, pour ceux qui connaissent Mondragon et que les choses soient très très claires, Mondragon est aujourd'hui une expérience qui est très controversée parce qu'il y a une certaine... Certains parlent de dérive, je ne suis pas persuadé que ce soit le mot. Exemple, Mondragon a racheté... Enfin, une des coopératives de Mondragon, qui est Fagor Electrodomesticos, a racheté Brandt, par exemple, en France, et a fait des plans sociaux chez Brand comme n'importe quel repreneur capitaliste l'aurait fait. Soyons clairs, il y a même à l'intérieur de la société basque des contestations de Mondragon qui se font du côté des syndicats, du côté d'organismes qui appellent à voter d'ailleurs contre les résolutions du management, qui montrent qu'il y a une démocratie qui existe quoi qu'il en soit. Il est vrai, et c'est une réalité, en général, les motions du management qui sont les plus repoussées, c'est celles qui ont trait à la hiérarchie des salaires, les assemblées générales tendant à réduire largement la hiérarchie des salaires dans ce groupe, et c'est une réalité. Par exemple, Fagor Electrodomesticos, pour là-bas, le plus bas salaire, il est de 1400 euros par 14 mois. Bon, c'est pas mal, hein. Et le salaire du patron de Mondragon, il est de 12 000 euros par mois. Alors vous allez peut-être me dire, c'est énorme 12 000 euros par mois. C'est vrai que certainement dans la salle, on serait beaucoup à aimer 12 000 euros par mois. Il n'empêche que comparez-le par rapport à un salaire d'un patron de groupe CAC 40 équivalent. Je prends par exemple, je vais prendre le groupe de Ribou, la Danone. Bah, Danone, c'est 400 000 euros par mois. Voilà.
Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Donc, tout le monde, c'est tout ? Simon ?
A-t-on des exemples, autres que celui de Cifrance, de projets de SCOP qui échouaient et pourquoi ? Quelles sont les raisons les plus fréquentes d'échecs dans ces projets ?
D'accord. Alors, Cifrance n'a pas échoué. De par la reprise, hein, on a fait échouer Cifrance. Déjà, je vais faire un distinguo. Là, aujourd'hui, ils reprennent. J'espère que leur projet évoluera bien. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des affaires, des reprises qui se passent mal ? Ben, il y en a qui se passent bien, il y en a qui se passent mal. Il ne faut pas rêver. En termes de scope, c'est une entreprise comme une autre. Donc, il y en a... où c'est bon, il y a quand même un taux de réussite de SCOP qui est supérieur aux entreprises classiques quand on observe à 5 ans le taux d'entreprise qui reste. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais vous pouvez aller sur le site web de la Confédération Générale des SCOP où cette information est donnée. Maintenant, on va prendre des exemples, bien entendu, puisque vous me le demandez. Alors d'abord, parlons d'exemples qui ont marché. Vous avez en Bretagne les aciéries de Ploermel qui ont été reprises, je crois, en 2005. Qui fonctionne bien. Vous avez dans la Drôme, en 2004, l'entreprise Seralep, c'était des isolateurs électriques de très haute tension. Ils appartenaient à un groupe américain qui a littéralement coulé la filiale parce que les Français, ça les embêtait. Et c'est le délégué CGT avec les salariés ont décidé de relancer l'entreprise. Et c'est une entreprise qui aujourd'hui se porte à merveille. Ils ont réembauché, etc. Et puis, il y a des cas où ça se passe mal. Alors, des cas où ça se passe mal, bah, vous en avez un. Peut-être certains d'entre vous ont vu le film « Entre nos mains » de Mariana Otero sur Starissima, où effectivement un projet avait vraiment germé. Et c'est au moment où un client qui était, c'était des chaînes de supermarchés, oui, Starissima, oui, de la lingerie, donc c'est des chaînes de supermarchés qui sont les clients directs. Et ils avaient trois distributeurs, il y en a un qui a fait faux bond, et là, quand ils ont dit qu'il n'y en a plus que deux, on arrête les dégâts, on ne va pas plus loin. C'est une décision qu'ils ont prise, en commun accord d'ailleurs avec l'URSCOP, comme le film le montre pour ceux et celles qui l'ont vu. Donc voilà, c'est un exemple. Puis on a des exemples d'entreprises qui se sont plantées beaucoup plus tard. Alors vous avez Merceron, par exemple, dans les Deux-Sèvres, si je ne dis pas de bêtises, qui était de la chaudronnerie industrielle. Il y a un petit film qui est sorti dessus qui est très instructif. Alors là, c'est amusant et justement, ça nous touche les questions d'autonomie. Cette entreprise, au bout de 2 ans, a redéposé le bilan. Pourquoi ? Et quand on écoute bien ce qui s'est passé, en fait, c'est très amusant. Et quand on parle d'autonomie, c'est que là, on a vraiment la SCOP qui n'a pas vraiment marché en esprit SCOP, en esprit d'autogestion, en esprit coopératif. C'est-à-dire que très vite, un management s'est créé et on a recréé la hiérarchie. Il y a eux. Et les salariés n'étaient pas tellement d'accord avec l'orientation, mais ça se disait tout bas, et ça ne se disait pas au comité, au conseil d'administration. Et inversement, on avait une hiérarchie, il fallait les voir interviewer, ils étaient quand même un petit peu lourds. Le nouveau PDG disait, il faut savoir que dans une SCOP, c'est comme dans une entreprise, il y a une hiérarchie, il y a des ordres, et on obéit. Bon, ok. Et je pense que c'est typiquement ce genre de choses qui montrent qu'effectivement, il y a une idéologie dominante qui pèse énormément. On est resté salarié et tout et tout. Et puis, peut-être que les salariés auraient pu redresser leur entreprise puisqu'il y avait une autre vision de l'entreprise. On le voit par exemple. D'ailleurs, c'est un point commun, vous remarquerez, à toutes les contestations qu'il y a. C'est ce que j'ai remarqué. On prend les SCOP comme moyen concret de sauver l'emploi. Mais en même temps, dans tous les cas, j'ai constaté qu'il y avait une contestation de la façon dont l'entreprise était gérée précédemment. Et dans tous les cas, j'en ai pas un seul contre-exemple. De tous ceux que j'ai pu rencontrer, interviewer, etc., c'est flagrant. C'est-à-dire que la SCOP, c'est vraiment l'idée, on n'est pas de l'accord de la façon dont c'est géré, et on pense qu'on peut faire mieux et différemment. Voilà.
Merci beaucoup, Benoît. Je pense qu'on peut applaudir.